Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL, où le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran mènera-t-il la région, mais aussi la France. Après trois phases de frappe en un an, cette guerre provoquera-t-elle des remous insoupçonnés? Selon Michel Fayad, oui, cela ne fait aucun doute, mais l'Orient est compliqué. Bonjour Michel Fayad.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes géopolitologue et vous venez de publier un essai chez Fayard, « Après la guerre, la menace à nos portes ». Nous sommes souvent journalistes et vous analystes emportés par le quotidien. Mais dans ce livre, vous alertez sur les conséquences d'un effondrement à Téhéran. Je vous cite, « Si le régime iranien venait à s'effacer, plusieurs acteurs islamistes sunnites pourraient s'engouffrer dans la brèche. Nous allons essayer de comprendre votre analyse parce que c'est assez contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce qu'on a souvent entendu depuis un an que la fin des mollahs serait synonyme de liberté. La coalition israélo-américaine a pu le croire pendant un certain temps, au moins en début d'année. Mais vous dites, vous, Michel Fayad, prudence, je vous cite encore, la chute de la République islamique, si elle advient, ne sera pas la fin de l'histoire islamiste. Ce sera peut-être le début d'un nouveau chapitre, plus imprévisible et dangereux encore. Ai-je bien résumé votre intention ?
Oui, c'est vrai. Après, moi, je suis pour la chute de la République islamique. Je suis contre toutes les formes d'islamisme sunnite et chiite. Donc, je suis pour la chute de la République islamique en Iran. Mais ce que je voulais alerter, c'est que si la République islamique d'Iran venait à tomber, tout ne serait pas réglé. Parce que souvent, sur les plateaux de télé ou ailleurs, même à la radio, dans les journaux, etc., on peut voir des spécialistes ou des pseudo-spécialistes nous dire que si la République islamique d'Iran tombe, alors tout est réglé. On va être sur le paradis sur terre, il n'y a plus d'islamisme, le Hamas tombe, tout est tombé. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Vous savez que dans le monde, sur 100 musulmans, vous avez 15 chiites, mais 85 sunnites. En Iran, vous avez même deux tiers de chiites, mais il y a aussi un tiers de sunnites. Les principaux attentats sur le sol français ont été commis par des sunnites. Il y a eu des attentats commis par des chiites, même dernièrement, des tentatives notamment contre les intérêts juifs ou contre des juifs, ont été commis en fait sur commande iranienne, donc sur commande chiite, mais la plupart des attentats comme le Bataclan, comme Charlie Hebdo et d'autres, c'était commis par des sunnites. Donc on ne peut pas dire que la chute de la République islamique d'Iran va arrêter l'islamisme ou le terrorisme, non. Et vous savez que depuis 1400 ans que l'islam existe, sunnites et chiites s'affrontent. Donc c'est un conflit ancestral qui a eu une certaine nouveauté au moment de la chute de l'Irak de Saddam Hussein en 2003, et pendant 20 ans, sunnites et chiites se sont battus. Et si aujourd'hui la République islamique d'Iran venait à tomber, mais vous avez toutes les formes de sunnisme qui vont être un peu, soulagées de la chute d'une République islamique chiite qui était un peu en concurrence parfois avec eux, parfois en conflit avec eux, parfois en accord avec eux, mais qui du coup va leur permettre de se concentrer sur leur véritable cible, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, et les bouddhistes, les hindouistes, parce que c'est pas que contre les juifs et les chrétiens d'un point de vue occidental, oui, mais il y a aussi, vous savez, en Inde, des problèmes entre les hindous et les sunnites, et puis il y a aussi donc au Myanmar avec les bouddhistes et les musulmans sunnites aussi, en Chine entre les musulmans sunnites et les restes. Donc
l'ensemble des frontières du monde arabo-musulman. D'accord. Donc ce que vous dites, c'est que la menace sunnite pourrait être émancipée, libérée de sa rivalité avec le chiisme qui absorbait une partie de son énergie.
Oui, tout à fait. En fait, si vous vous souvenez, au moment de la guerre contre Daesh et même Al-Qaïda, en Syrie, vous aviez le Hezbollah qui se battait contre eux. Il y avait également les gardiens de la révolution iranienne qui se battaient contre eux. En Irak, vous aviez aussi d'un côté le Daesh et de l'autre côté, vous aviez aussi donc le Hezbollah, vous aviez les gardiens de la révolution, vous aviez le Hashd al-Shaabi, c'est-à-dire le proxy iranien en Irak, donc ils s'affrontaient. Et dès lors que c'est cet
vous
Iran...
Vous soulignez d'ailleurs, pardon, je me permets de vous interrompre, mais que c'est l'un des principaux succès stratégiques de l'Iran depuis 10 ans, c'est justement l'Irak avec les milices qui lui sont proches, les proxys qui lui sont proches.
Bien sûr, pour eux, le Hezbollah, c'était la force, la forme la plus réussie en tant qu'organisation, mais la mainmise qu'ils ont réussi sur l'Irak, elle est quand même extraordinaire, parce qu'il y a eu 10 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, et puis les Américains sont intervenus en 2003, et finalement, c'est l'Iran qui a pris le contrôle de l'Irak. Donc c'était effectivement un grand succès pour eux. Puis il y a eu Daesh qui contre lequel ils ont dû faire face, mais ils ont fait face avec un certain succès. Maintenant, Donald Trump a exigé du nouveau premier ministre irakien que d'ici le 30 septembre, le Hashd al-Shaabi soit désarmé. Il y a certaines organisations membres du Hashd al-Shaabi qui ont déjà été désarmées, mais d'autres qui refusent de l'être et d'autres qui ne le sont pas. En français, Hashd al-Shaabi, c'est-à-dire les unités de mobilisation populaire, mais c'est le proxy iranien en Irak.
Qui donc a combattu contre Daesh. Vous évoquez les États-Unis, alors ça tombe bien parce que justement, pour en revenir à cette guerre entre les Américains et l'Iran, les Américains ont beaucoup manié la carotte et le bâton entre deux campagnes de frappe. Ils ont tendu avec le mémorandum une perche de 300 milliards de dollars aux Iraniens. Je vous propose à cet égard d'écouter Marco Rubio le 19 juillet dernier qui a reproché à Téhéran sa politique vis-à-vis de sa population.
L'Iran est un pays riche. L'une des raisons pour lesquelles l'Iran est dans un état désastreux, c'est parce que chaque centime que ce régime obtient, que ce soit via un allègement des sanctions ou via le pétrole qu'ils arrivent à exporter, ils l'investissent dans le Hezbollah. Ils l'investissent dans le Hamas. Ils devraient dépenser des milliards de dollars pour le peuple iranien, ils devraient construire leur pays, mais à la place, ils l'utilisent pour parrainer le terrorisme.
Alors on pourrait ironiser en rappelant que les États-Unis dépensent aussi beaucoup pour des proxys et avec 950 milliards de dollars par an pour leur armée, qui déstabilise quelquefois des régions entières. Mais bref, ma question.
Et puis, ils ont financé aussi quelques organisations qui n'étaient pas tellement pacifistes.
Mais bon, ma question concernera quand même l'Iran, Téhéran. Vous dites que vous êtes pour un changement de régime, on voit en tout cas une évolution du régime, mais je voudrais préciser là-dessus la question, le problème, parce que vous n'êtes pas manichéen quand on vous lit, Michel Fayad. Vous revenez sur l'histoire de la République islamique depuis 1979, vous dénoncez ses agissements à travers la région, notamment au Liban, via le Hezbollah. D'ailleurs, vous revenez sur votre expérience familiale dans l'ouvrage, et nous reviendrons là-dessus, puisque vous êtes originaire du Liban. En même temps, vous rappelez que l'Iran a contré, encore une fois, en Irak, en Syrie, sa lutte contre l'islamisme. Comment jugez-vous, en fait, cet Iran qui peut sembler très paradoxal ?
Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, les sunnites et les chiites se haïssent. Donc à partir du moment où il y a un islamisme sunnite qui est un danger pour eux, alors ils l'affrontent. Et de fait, on était leurs alliés, puisque sur le sol syrien et le sol irakien, quand on a décidé de lutter contre Daesh, on avait de fait un allié, qu'on le veuille ou pas, qui était l'Iran. Et c'est pour cela qu'il y a eu la signature de l'accord sur le nucléaire en 2016, qui était un peu l'aboutissement de cette alliance non dite, mais de fait sur le terrain. Et dès lors que la lutte contre Daesh avait été gagnée, eh bien, Donald Trump, une fois président, avait remis en cause cet accord et il en était sorti. C'était un peu ça ce qui s'était passé. Sur ce qu'a dit Marco Rubio, je voulais juste revenir dessus. Vous savez, il parle des 12 milliards qui devaient être libérés au moment de la signature du protocole d'accord entre Iraniens et Américains. Les 12 milliards n'ont pas été libérés. Parce qu'il y a eu un désaccord entre Iraniens et Américains. Donald Trump voulait que les 12 milliards soient utilisés essentiellement pour acheter du blé et du maïs américain, donc en fait pour financer la récolte du Kansas. Tandis que les Iraniens, eux, voulaient récupérer ces 12 milliards, effectivement et très probablement, pour payer les salaires des gardiens, payer les salaires des soldats, renforcer le Hezbollah, renforcer le Hashd al-Shaabi et se préparer à la prochaine. Et donc le non-paiement de ces 12 milliards a conduit à la reprise des hostilités. C'est ce qu'a dit en tout cas le conseiller militaire du guide, Mohsen Rezaei. Il l'a dit publiquement en interview télé, que c'était la raison pour laquelle l'Iran avait décidé de refermer le détroit d'Hormuz, de son point de vue à lui, et d'attaquer les navires.
Donc davantage que le contrôle à proprement parler du détroit d'Hormuz, qui pour vous est surtout un levier, la principale cause est financière.
Oui, en tout cas, c'est ce que lui-même le dit. Mohsen Rezaei est très clair là-dessus. Il dit que le détroit d'Hormuz est une arme pour eux, mais que la véritable raison pour laquelle il remet en cause l'accord, c'est le fait qu'il n'ait pas reçu les 12 milliards qui étaient prévus.
Alors, vous évoquez les personnes au pouvoir en Iran. Ce pouvoir a évolué, mais dans quelle direction et comment? C'est un peu la question que je voudrais vous poser, surtout évidemment après l'assassinat de Khamenei. Il est quand même peu probable que l'Iran disparaisse. En tout cas, vous en doutez vous-même d'une certaine manière, semble-t-il, mais corrigez-moi si je me trompe. Je vous propose d'écouter son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, le 20 juillet dernier. Il répondait aux médias iraniens Majara sur l'essor de la puissance iranienne.
Pratiquement tous ceux que nous rencontrons ces jours-ci, amis et ennemis, disent que l'Iran est sorti plus fort de cette guerre. C'est leur propre expression. L'Iran a stupéfié le monde. L'Iran a montré sa vraie puissance. Nous venons seulement de comprendre notre bombe atomique, le détroit d'Ormuz, nous cherchions autre chose jusqu'à maintenant. Le monde a compris que l'Iran est fort. C'est peut-être notre plus grande victoire. Pourquoi avons-nous compris que nous étions forts? Parce que nous avons résisté. Nous ne nous sommes pas rendus, nous n'avons pas changé de régime, la division de l'Iran n'a pas eu lieu. Oui, ils avaient planifié la division de l'Iran.
L'Iran est devenu plus puissant, dit-il donc. À quel point? Vrai ou faux, en fait, j'ai envie de vous demander.
Vrai et faux. Dans le sens qu'effectivement, ils ont montré qu'ils avaient la capacité de bloquer le détroit d'Ormuz et donc de bloquer la sortie de 20% du pétrole mondial, de la sortie de 21 à 23% du gaz naturel liquéfié mondial, de 33% des engrais mondiaux. Donc il y a quand même une capacité de nuisance extrêmement importante. Mais quand même, l'Iran a perdu militairement beaucoup de ses capacités, même s'il est encore très nuisible. Il a perdu énormément également d'argent, puisqu'on dit que le conflit lui a coûté au plus bas 270 milliards de dollars, ce qui est énorme pour un pays qui est sous sanctions depuis de nombreuses années et qui avait déjà un manque de 400 milliards de dollars. Donc d'un point de vue économique et financier, c'est un gouffre, c'est une catastrophe, il est au plus bas. D'un point de vue militaire, il est affaibli, même s'il a développé, on l'a vu, des missiles assez nouveaux qui sont capables de changer d'orientation au dernier moment et donc de contrepasser les surveillances américaines, arabes et israéliennes. Donc ils ont gagné certaines choses, ils ont perdu d'autres. Même sur, par exemple, les proxys, le fait que le Liban ait signé avec Israël et les États-Unis un accord dans lequel le Hezbollah est censé désarmer, et puis le fait que le Premier ministre irakien se soit engagé à désarmer aussi le Hash el-Shaabi, ce sont aussi des défaites quand même pour l'Iran. Donc ils ont gagné sur certains plans, ils ont perdu sur d'autres. Mmh. C'est ça un peu la réalité.
Alors pour vous, il y a un certain nombre de pays qui sont en embuscade en cas de recul de l'Iran, sur lesquels on pourrait évidemment discuter davantage. Mais pour vous, il y a un certain nombre de pays qui sont en embuscade, dont la Turquie. Oui. La Turquie, qui évidemment est très proche de Hayat Tahrir al-Sham en Syrie, qui, je vous cite aussi, est un proxy saoudien. La menace pourrait-elle être turque en cas de ressac de Téhéran?
Déjà, la Turquie est le seul pays qui occupe un pays membre de l'Union européenne. La Turquie occupe le tiers de Chypre. Et depuis 1974, la Turquie occupe une partie de la Syrie au nord. Et puis, Ahmad el-Sharaa Joulani a été placé notamment par les Turcs. Et donc les Turcs essayent de remplacer la présence iranienne qu'il y avait au temps de la Syrie de Bachar el-Assad par une présence turque, et donc se rapprocher d'Israël. Je parle de la frontière israélienne, bien sûr. Mmh. Et vous avez fait aussi que le Hamas, qui a été chassé du Qatar, s'est installé désormais en Turquie. Donc la Turquie essaye de prendre d'une certaine manière le leadership de cet islamisme sunnite dans la région, et de plus en plus évoque le fait de détruire l'État d'Israël, et évoque même le fait de prendre le contrôle de Jérusalem. C'est ce qui a été dit officiellement dans ces dernières semaines par l'AKP, donc le parti d'Erdogan. Donc c'est en tout cas, la Turquie essaie de montrer ses muscles, et la Turquie est de plus en plus présente aussi en Afrique, que ce soit en Libye ou ailleurs. Donc on voit une Turquie qui est, disons, dans une phase plutôt de conquête, une phase d'imposition de puissance, et il y a le Qatar derrière qui finance. Maintenant, il faut voir si tous les pays arabes sunnites et la Turquie s'entendent, et le Pakistan, est-ce que tout ce monde-là s'entend plus ou moins, est rivaux, est-ce qu'ils vont se disputer entre eux? Déjà, on voit les disputes entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Vous voyez, donc c'est à voir.
Mais vous parlez donc des pétromonarchies, en l'occurrence, elles ont subi le conflit très lourdement. Vous pensez justement qu'elles sont capables d'une certaine manière de rebondir?
Oui, parce qu'ils ont les moyens financiers. Et ça, c'est quand même une chose très importante. Ce sont les pays les plus riches, en réalité, de la région. D'ailleurs, Donald Trump a annoncé que le Qatar allait investir 19,6 000 milliards de dollars sur le sol américain. que le Qatar ne possède pas aujourd'hui. Quand vous regardez le PIB, il est beaucoup plus petit, mais en fait, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est sur plusieurs années que cela se fera. Mais quand même, vous voyez la capacité financière qu'ont ces pays, que nul autre n'a en réalité. Ces pays pèsent énormément dans nos complexes militaro-industriels, américains, britanniques, français. Et donc, influe sur nos politiques extérieures, étrangères, et sur nos politiques intérieures. Donc oui, ils ont une capacité. Le Qatar utilise la Turquie, on l'a dit, et l'Arabie Saoudite utilise de plus en plus le Pakistan.
Je voudrais revenir évidemment sur le lien qui existe entre les puissances occidentales, mais surtout la France et ses pétromonarchies. Vous évoquez cela en conclusion et vous appelez en fait au réalisme. Et nous allons revenir là-dessus. Mais avant cela, je voudrais évidemment évoquer le Liban. Je ne parle pas de l'islamisme depuis une position de neutralité confortable. La perspective libanaise en fait est déterminante dans votre analyse, dans votre réflexion. Le Liban, en l'occurrence, est sur la ligne de front. Il souffre depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. On a envie de dire depuis plusieurs années d'ailleurs. Le 19 juillet, le président Aoun a souligné que la présence de Tsahal dans le sud, l'occupation pourrait-on dire, sapait son autorité. Mais il faut faire un retour dans le temps. C'est ce que vous faites dans votre essai. Vous revenez à la guerre civile, entre guillemets, de 75 à 90, parce que pour vous, la guerre civile qui a déchiré le Liban, en fait, n'était pas une guerre civile. Pourquoi nous dire cela ?
Parce qu'en fait, ce n'était pas une guerre entre chrétiens libanais et musulmans libanais. Ça a été une guerre qui a été syro-palestinienne contre le Liban. Parce que ceux qui ont combattu les Libanais, ce sont les Syriens et les Palestiniens. Ils avaient, eux, leur propre proxy libanais, c'est vrai. Mais je veux dire, vous savez que les Palestiniens au Liban ont tué plus de musulmans chiites que de chrétiens, alors qu'on a l'impression en Occident que c'était une guerre, disons, entre chrétiens et palestiniens au début. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et comme j'ai dit, il y a eu plus de chiites tués par les Palestiniens au Liban que de chrétiens. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une forte incompréhension de la part des chiites au Liban de ce soutien du Hezbollah envers les Palestiniens. Parce que dans le fond, dans l'esprit des chiites, ils gardent le fait qu'il y a eu beaucoup de sang versé entre les Palestiniens et eux. Et donc ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le Hezbollah les a entraînés dans une guerre de soutien au Hamas. Donc il y a quand même cet aspect-là pour bien comprendre pourquoi. Et puis, vous savez, en 82, quand Israël est rentré au Liban, dans l'opération Paix en Galilée, les chiites envoyaient des fleurs et des roses sur les soldats israéliens pour les remercier de venir les débarrasser des Palestiniens. C'est pour vous dire ce qu'il y avait entre les Palestiniens et les chiites. Et l'Arabie Saoudite était derrière et la Syrie et les Palestiniens, et aussi la Libye de Kadhafi, mais surtout l'Arabie Saoudite. Parce que, vous savez, le Liban a une particularité, c'est qu'il a un président, vous avez cité le nom, l'actuel c'est Joseph Aoun, qui est chrétien. Et dans l'islam, il est interdit d'avoir au-dessus de la tête d'un musulman un non-musulman. Donc dès lors qu'il y a un président non-musulman, et en plus que c'est de fait dans la coutume constitutionnelle, même si ce n'est pas inscrit dans la constitution, eh bien c'est quelque chose à changer, à abattre. Et donc toute cette guerre, elle a été faite pour saper, casser le fait que le Liban soit dirigé par un chrétien. Et ils ont réussi. Parce qu'en 1990, il y a eu l'accord de Taif qui a été imposé aux Libanais contre le gré des Libanais, dans lequel on a ôté au président de la République toutes ses prérogatives. Donc quand le président de la République veut, Libanais veut, ou le président de la République libanais a annoncé qu'il a décidé que... En fait, tout ça, c'est pas vrai. Parce que constitutionnellement, il n'en a plus le pouvoir. Aujourd'hui, le Liban, c'est une démocratie parlementaire, et le pouvoir exécutif a été transféré du président de la République vers un gouvernement dans lequel il y a toutes les communautés religieuses. Donc en fait, il n'y a plus de pouvoir exécutif valable, puisqu'il faut qu'ils s'entendent entre... Toutes ces communautés religieuses doivent s'entendre entre elles, ce qui est quasi impossible à chaque fois pour les décisions les plus importantes. Et donc le Liban est affaibli, non seulement parce qu'il n'a pas une armée dotée de toutes les armes qu'il faudrait, mais aussi parce que sa propre constitution, imposée en 90, l'a affaiblie en transférant ce pouvoir exécutif du président de la République à un conseil des ministres dans lequel donc, on ne s'entend pas.
Parce que pour vous, nous en venons à la France, parce que pour vous, l'expérience, ou en tout cas la tragédie libanaise, est une leçon pour la France.
Oui, parce que déjà, il y a des liens qui lient ces deux pays, mais aussi parce que, en fait, en France, le problème ne vient pas du peuple français en tant que tel. Il vient de par l'immigration, de par le poids, justement, des pays arabes du Golfe dans le complexe militaro-industriel, du fait qu'on est en train train d'utiliser la laïcité d'une certaine manière pour faire avancer l'islam, alors que d'autres essayent d'utiliser la laïcité pour bloquer l'islam. Mais en fait, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et comme je vous ai dit, au Liban, ce n'était pas une guerre civile, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur. Donc oui, les deux expériences peuvent être mises en parallèle. Et ce qui est arrivé au Liban peut arriver à la France. Le Liban se croyait fort, parce qu'il était une démocratie, parce qu'il avait une presse libre, parce qu'il avait des universités parmi les plus renommées dans le monde entier. Mais la France, il ne faut pas que la France croie que parce qu'elle a ses institutions à elle, parce qu'elle est une démocratie, parce qu'aussi il y a la liberté, qu'elle pourra faire face à cet islam conquérant. Non, il faut vraiment ouvrir les yeux et faire face à ce véritable danger.
Vous avez d'ailleurs des mots très durs à l'égard des États-Unis, du rôle des États-Unis dans la désintégration du Liban. Malheureusement, le chronomètre tourne, donc je vais surtout vous interroger sur votre appel au réalisme, à la lucidité, encore une fois, de la France, pas spécialement pour sa politique d'intégration, mais aussi parce que vous plaidez pour une rupture diplomatique avec les pétromonarchies, donc le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., bien sûr. En fait, pour plus de fermeté, vous dénoncez leur poids financier, vous citez que 43% du chiffre d'affaires du complexe militaro-industriel français provient du Golfe, et bien sûr, vous voulez équilibrer cela avec le prosélytisme religieux. Alors je vous demande, Michel Fayad, en fait, que faire ? Point d'interrogation.
Déjà, si on fait partie de l'Union européenne, il faut exiger une priorité européenne. Il faut que les Allemands, que les Polonais, ou les autres achètent français avant d'acheter américain ou étranger. Donc ça nous permettrait de fait de réduire cette proportion des pays arabes du Golfe dans notre complexe militaro-industriel. Et on ne peut pas, juste sur le prétexte que les pays arabes du Golfe nous achètent nos armes ou investissent dans l'immobilier parisien ou dans nos clubs de foot, leur dire oui, vous pouvez faire avancer toutes les causes que vous voulez pour les islamistes, que telle et telle association sont permises, que telle et telle mosquée avec tel et tel imam qui disent des choses contre la France soit autorisée. Non, il faut qu'on s'impose, qu'on se fasse respecter. Il y a des choses qui sont intolérables et inacceptables. S'ils veulent acheter nos armes, très bien, mais c'est pas à leurs conditions, c'est à nos conditions.
Et vous pensez que l'élite française n'est pas suffisamment à la hauteur, en l'occurrence, que reprochez-vous à l'heure actuelle, pas spécialement à l'exécutif, mais peut-être plus largement aux élites françaises ?
Je pense qu'il y a une partie de l'élite qui est très naïve, et une autre partie de l'élite qui ne connaît rien à l'islam, et c'est pour cela qu'il est important que cette élite prenne conscience de ce qu'est l'islam. En fait, sans croire que juste parler d'islam, c'est quelque chose d'extrême droite ou quelque chose de raciste, il faudrait pas en parler. Non, non, non. Il y a un vrai souci aujourd'hui qui a déjà fait beaucoup de morts sur le sol français et à l'étranger. On a vu même des soldats français être tués à l'étranger. Et donc, il faut vraiment prendre en compte et conscience de ce fléau, de ce problème que la France voit sur son propre sol, et donc le traiter comme il se doit.
Parce qu'on a le sentiment que, entre guillemets, la vague du terrorisme, du Bataclan, etc., est passée, et qu'aujourd'hui, le problème est réglé. Vous vous dites, non, pas du tout. Si il y a une situation qui évolue en Iran, avec un ressac des mollahs, un nouvel essor des puissances sunnites, il y aurait quelque chose, enfin, il y aurait une menace, clairement, pour la France.
Bien sûr, il y aura des attentats. D'ailleurs, il y a des attentats qui sont déjoués sur le sol français, d'ores et déjà. Et je pense qu'avec la chute de l'Iran, il y aura plus encore de menaces sur le sol national.
Vous dites la chute de l'Iran, parce que c'est un scénario auquel on peut difficilement croire, puisque Donald Trump a du mal, visiblement, face au pouvoir des mollahs. Même une érosion, une évolution, une libéralisation progressive de l'Iran, auquel on assiste en fait aussi objectivement depuis quelques années, cela suffirait à libérer peut-être les puissances sunnites ou à faire de l'Iran une puissance régionale? Parce qu'il y a deux alternatives.
En fait, il y a deux choses, comme je vous ai dit, c'est les deux points négatifs pour l'Iran depuis le début de la guerre, c'est l'affaiblissement économique et le fait que les proxys sont sommés de désarmer. Si l'Iran perd ses proxys, ou en tout cas perd une partie de ses proxys, et que les coûts économiques s'accentuent pour l'Iran, alors oui, les islamistes sunnites pourront en profiter pour faire avancer leur propre agenda, puisque l'Iran serait de fait affaibli.
Les islamistes sunnites qui veulent avancer leur propre agenda, eh bien ce sera le mot de la fin. Michel Fayad, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez publié l'essai Après la guerre, la menace à nos portes aux éditions Fayard. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de nous commenter, de nous partager et de vous abonner à TVL. Merci à tous et bonne soirée.